Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal. Patience Ngalula Mbombo à la présentation.
Au sommaire de cette édition d'information, nouvelle attaque hier d'une embarcation sur la rivière Kwango par les miliciens Mobondo dans le territoire des Kenge. La société civile du Kwango déplore les non-respects du deuxième accord de paix signé entre le gouvernement et les leaders de la milice Mobondo. Des dizaines de millions de dollars américains de deniers publics détournés entre juillet et septembre de cette année. Ceci ressort du rapport trimestriel de détournement des fonds publié par la coalition Congo n'est pas à vendre à Kinshasa. L'invité de ce journal est le directeur général du bureau d'ingénieurs conseil en organisation technologie industrielle et mines SARL. Léonide Moupépé Lemonti revient sur les défis à relever pour l'exploration des diverses ressources minières dans les maniements. Bonsoir. Ce journal part du Kwango où l'on signale une nouvelle attaque de miliciens Mobondo. Nous avions cru qu'après la signature du deuxième accord de paix entre le gouvernement représenté par le vice-premier ministre de l'Intérieur et les leaders de la milice Mobondo, la situation sécuritaire allait s'améliorer dans le Kwango, Kwilu et Maïndombe. Contre toute attente, nous observons que la situation n'a pas changé. Donc, avant l'accord est égal à l'après-accord. Ces propos sont du vice-président du cadre des concertations provinciales de la société civile du Kwango après l'attaque hier jeudi d'une embarcation par le milicien Mobondo sur la rivière Kwango au territoire des Kenge. Symphorien Kwengo dénonce aussi tant d'autres exactions de miliciens sur l'axe de Lonzo-Kingala. Il invite les gouvernements à régler définitivement cette crise avec les vrais acteurs. Symphorien Kwengo est joint par Irène Mbomaluzolo.
Les attaques récurrentes de la milice Mobondo le long de la rivière Kwango, il y a une embarcation qui a été attaquée. Il y a des exactions aussi du côté de l'axe routier Missio Lonzo Kingala où les gens sont pris en otage, ils sont portés disparus. Il y a l'insécurité, les commerçants ne peuvent plus passer par là, les prix des produits manufacturés ont galopé, les prix des produits alimentaires ont également galopé parce que les paysans ont peur d'aller en forêt. Et nous croyons que le gouvernement doit négocier, oui, mais avec qui? Est-ce que ceux qui négocient avec le gouvernement, ce sont ceux-là qui sont véritablement les vrais instigateurs de l'insécurité orchestrée par les miliciens Mobondo? C'est la question que l'on se pose. On ne peut pas comprendre que pour la deuxième fois, les accords sont signés, mais ces accords ne sont pas respectés. C'est là que nous recommandons au gouvernement de négocier avec les vrais instigateurs de l'insécurité orchestrée par les miliciens Mobondo pour que la paix soit rétablie.
Entre-temps, la province du Nord Kivu connaît beaucoup de défis en matière de sécurité alimentaire qui nécessitent une assistance d'urgence et multisectorielle. C'est l'évaluation faite par les directeurs régionaux du Programme alimentaire mondial PAM pour la région de l'Afrique australe. Éric Perdison, qui est en mission d'évaluation au Nord Kivu, dit venir palper du doigt et voir de près ce qui se passe sur le terrain. Hier jeudi, il a visité deux sites de déplacés, celui des Boulengo et des Luachi. De cette visite, il parle d'une situation humanitaire préoccupante. Et pour faire face à cette situation, il déclare que le PAM va continuer à renforcer ses efforts de plaidoyer pour mobiliser assez de ressources en faveur de ses déplacés. On écoute Éric Perdison au micro de Denise Loukesso.
On a en date d'aujourd'hui 6,9 millions de la population déplacée, parmi lesquels il y a 5,5 millions ici à l'est, dans les régions de Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Mais plus grave encore, parmi ces gens de déplacés, il y a plus de 2 millions qui étaient déplacés depuis le début de cette année. Donc ça veut dire que la situation ne fait que s'aggraver. En venant ici, j'ai eu l'opportunité de parler avec plusieurs partenaires, y compris le gouvernement à Kinshasa, mais au niveau provincial. Et ce qui est important est que tous les partenaires ont les mêmes idées de comment on peut faire face à ces situations graves pour que cette population soit assistée de manière urgente, mais aussi de manière holistique. Ici à Goma, j'ai eu l'opportunité de visiter deux camps de déplacés, Boulengo et le camp de Luachi. Et ce que j'ai vu, la population déplacée là-bas, ça brise le cœur. Donc avec tout ça, on va continuer à parler avec les bailler du fonds pour pouvoir mobiliser plus de ressources et pour augmenter notre capacité d'assister cette population.
Et puis, les forces conjointes FRDC-UPDF ou armées ougandaises ont démantelé mercredi un bastion de rebelles des EDF au Mont Oyo dans la chefferie des Walesevonkutu dans le territoire d'Irumu. Des bombardements ont été entendus tard dans la soirée vers les bastions de cette force négative, affirment des sources sécuritaires. Aucun bilan de ces opérations n'est encore disponible. La société civile locale indique que 118 otages, dont deux femmes et des enfants ont été libérés. Son président Pascal Kissézo demande à la population d'être vigilante et de dénoncer tous les mouvements suspects dans la zone. Il est joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
Il y a eu plusieurs tirs de bombes par les IPDF orientés vers Moyo. Nous avons vu la présence de plus de 118 personnes. Ils étaient arrêtés par les éléments de la FPIC. Ne s'est rescapé la OI à se sauver. Vers Moyo, il n'y a pas une population comme telle, mais c'était un mouvement suspect des ADF qui ont passé vers Moyo. C'est pour cela que l'armée a bombardé de ses côtés. Ils disent que ça fait déjà longtemps. Il y a ceux qui disent 6 mois, une année, même 2 ans. Il y a 89 hommes, il y a 4 enfants. Nous avons 5 filles et 20 femmes. À la population, je le demande d'être calme et aussi de multiplier la collaboration avec les FRDC ainsi que IPDF pour neutraliser tous les ennemis qui circulent dans cette partie de la zone et d'être très vigilante.
La coalition Congo n'est pas à vendre, SENPA va déplorer jeudi les détournements entre juillet et septembre dernier des fonds de l'État estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars américains. L'un des coordonnateurs de cette structure, Dimi Kande, a dévoilé ses rapports au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Dans ses rapports dénommés Kanyaka Rouchoua, il a par exemple cité les cas du directeur général de l'Agence nationale des météorologies et des télédétections par satellite Metelsat reconnu coupable de faute de gestion. Les souhaits de la coalition SENPAV est de voir le présumé coupable répondre de leurs actes devant la justice. Dimi Kande au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
De juillet à septembre, et on a constaté qu'il y avait encore beaucoup de cas de corruption qui restaient impunis. On a parlé du cas de Glencore qui a été condamné pour corruption alors que la justice congolaise tarde à ouvrir une enquête contre Glencore. On a parlé de l'argent qui a été détourné pour la construction de la prison alors que nous savons tous dans quelles conditions les prisonniers vivent. On a parlé de l'argent des victimes de la guerre de l'Ouganda qui avait été détourné. On a parlé également de la consultance de l'IGF qui a été décriée par la Cour de comptes. On a évoqué que nous avons également fait des recommandations qui vont du respect de règles de passation de marché, de la dépolitisation des nominations dans les entreprises publiques ou dans les établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons également évoqué le cas de l'éthique pour les organes de contrôle afin que ces derniers ne puissent pas se retrouver redevables là où ils partent mener leur mission. Pour nous, nous encourageons les initiatives qui sont positives, peu importe d'où elles viennent, si elles viennent de l'IGF ou ils viennent d'autres organisations.
Vous le savez, le 31 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'épargne. À Bukavu, elle a été commémorée sous une double facette. Pendant que les institutions des microfinances sensibilisent la population à l'épargne, les victimes des coopératives et des banques tombées en faillite recherchent encore les voies et moyens de recouvrer leurs épargnes qui se sont volatilisées avec la chute de ces institutions. Un reportage terrain de Jean Kassami.
La Journée internationale de l'épargne a permis aux IMF, institutions de microfinance opérationnelles à Bukavu, de mener une campagne de sensibilisation de la population sur l'importance de l'épargne. Polydor Kaloume Agno, agent de crédit à l'institution de microfinance TGDSA.
Je peux confirmer avec certitude que c'est possible d'épargner dans les institutions de microfinance parce que, au préalable, il y a les investisseurs qui garantissent avec les capital minimal exigé par la Banque centrale.
Alphonsine Chimembe garde en elle une image négativiste de l'épargne depuis qu'elle est tombée victime d'une institution bancaire en faillite à Bukavu depuis plus d'une décennie.
La Copé Kimara avait 12 000 membres et le montant escroqué est environ plus de 12 millions de dollars. Imaginez-vous. Avec un montant très exorbitant. Comment aujourd'hui on peut avoir le courage de revenir? On est dessus complètement des systèmes bancaires ici, chez nous. Rien n'est garanti, rien n'est protégé.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Kassai oriental, début depuis mardi dernier en Bujimaï de la démolition de quelques maisons construites sur l'emprise de l'aéroport au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba. Ces démolitions se sont effectuées sous haute sécurité des éléments de la police nationale congolaise et ceux des forces armées congolaises. Suivez ces reportages.
Plus de 50 maisons se trouvant sur l'avenue Dodoma au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba en Mbujimayi ont été démolies mardi par les tracteurs réquisitionnés par le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Cette démolition concerne plus de 800 maisons construites sur les avenues Dodoma et Zaïre depuis plus de 30 ans. Depuis le début de cette année, les habitants de ces deux avenues ont été sommés de déguerpir pour faciliter la poursuite des travaux des constructions et modernisation de l'aéroport international de Mbujimayi amorcé en 2022 mais qui ont subi un retard considérable dans leur exécution suite à la lenteur préjudiciable de la libération des parcelles concernées par l'expropriation selon l'autorité urbaine. Au mois d'avril dernier, le gouvernement provincial a attribué dans la périphérie de la ville des lopins de terre aux propriétaires des parcelles pour faciliter leur délocalisation. Il leur a aussi demandé de procéder volontairement à la démolition de leurs habitations pour récupérer les matériaux de construction. Mais ces derniers n'ont cessé de contester cette expropriation justifiant leur position par le non-respect de la valeur leur marchande de l'air parcelle.
En province du Kwilu, au moins 6 personnes sont mortes foudroyées au cours d'une pluie qui est tombée dans la journée de mercredi sur la commune rurale d'Idiofa et ses environs dans le territoire portant le même nom, les sources de la société civile. Ces territoires qui livrent l'information parlent aussi d'énormes dégâts matériels dont la destruction des maisons et des avenues. Irène Bomaluzolo.
C'est à l'issue de cette averse qui n'a duré que quelques minutes dans la journée de mercredi que cet incident s'est produit dans la cité d'Idjofa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, et à Gombe, localité située à quelques kilomètres de la dite cité dans le secteur de Kimputu. D'après la nouvelle société civile locale qui alerte, le bilan fait état d'au moins 6 personnes, dont 3 femmes, qui ont été tuées par la foudre. Parmi ces personnes, Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure indique que 4 ont été foudroyés dans la cité d'Idjofa et 2 autres à Gombe. Outre ce bilan humain, la même source ajoute que cette pluie a aussi occasionné d'énormes dégâts matériels. Par exemple, des maisons d'habitation des paisibles citoyens qui se sont écroulées, laissant ainsi du coup des ménages sans abri. La même pluie a également provoqué la destruction de plusieurs artères principales de cette commune rurale qui sont devenues impraticables, indique Arsène Kassiama. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les grandes villes des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba connaissent depuis un certain temps une perturbation dans la desserte en énergie électrique. D'après les directeurs provinciaux de la Société nationale d'électricité SNEL, cette situation est causée par la baisse du niveau d'eau, notamment aux centrales des Koni, Mwandingusha, Nzilo et Nseke. Conséquence, plusieurs machines sont à l'arrêt. Pour Jean-Marie Mutombongoy, la situation se rétablira avec une bonne pluviométrie. Pour ne pas pénaliser tout le monde à la fois, la SNEL procède au système de délestage en attendant que les niveaux d'eau puissent augmenter. On écoute Jean-Marie Mutombongoy au micro de Jean Gandou.
Nous nous sommes alimentés du côté centre et sud par les deux centrales de Koni et Mwadingusha qui à ce jour sur 9 machines installées, il n'y a que 2 machines qui fonctionnent. Il y a la diminution d'eau sur les lacs de la Lufira. Et si aujourd'hui vous descendez à Mwadingusha au niveau des barrages, vous allez constater que toute la berge est totalement sèche. Pourquoi ? Parce que tous les influents de la rivière sont également sèches en amont, ce qui fait qu'au niveau de la centrale, le niveau d'eau a diminué. D'ailleurs, entre les niveaux max et minimum, vous avez à peu près les 3 mètres qui ont diminué. Donc aujourd'hui, nous sommes en deçà de ces niveaux minimum. Donc nous sommes au niveau critique. Donc il était question que l'on puisse retirer pratiquement 6 machines en exploitation et les mettre à l'arrêt pour éviter de les exposer. Et du côté ouest, vous avez la centrale d'Enzilo et d'Enseke. À cause de ces diminutions d'eau également, il y a une machine qui est à l'arrêt en Seke pour protéger et sauvegarder et faire la gestion optimale des eaux afin d'éviter que ces niveaux bas des eaux puisse nous amener jusqu'à l'année 2025, c'est que les choses risquent de se compliquer.
Actualité internationale.
Le président français Emmanuel Macron a reconnu vendredi 1er novembre 2024 l'assassinat du dirigeant du Front des Libérations Nationales FLN, Larbi Ben Midi, par des militaires français à l'occasion du 70e anniversaire de l'insurrection du 1er novembre 1954 qui ouvrit la guerre d'Algérie. Souvent présenté par ses compatriotes comme les Jean Moulin algériens, le dirigeant du FLN a été assassiné en 1957 par le général Paul Ossarès, qui l'a avoué au début des années 2000, démentant la version officielle qui avait maquillé son décès en tentative de suicide.
L'invité.
La province du Maniema est une province très riche en ressources minières. Quelles que soient les ressources de la catégorie 3T et autres, tous ces minerais ne sont pas explorés, voulais-je dire, bien que la province dispose également de deux gisements. Comment faire face à ces grands défis? Notre invité, le directeur général du Bureau d'ingénieurs, conseil en organisation technologie industrielle et mines, SARL, en sigle Bicotim, Léonide Moupelele Monti, l'a dit lors de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures récemment organisée au Maniema mi-octobre. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Léonide Moupelele, bonjour.
Bonjour madame.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la minéralogie de Maniema?
Oui, oui. Les ressources minières du Maniema sont énormes. Mais il y a quelques ressources importantes. Il y a d'abord dans la famille des métaux précieux. Le Maniema est aurifère. Mais les deux grands gisements qui sont connus dans le Maniema, c'est Namoya, avec 54 tonnes d'or. Et il y a un autre petit gisement qui se trouve à Tukombo, avec cette société qui s'appelle Vector Resources et qui a 13 tonnes. Bon, ailleurs, il y a de l'or aussi, hein, mais c'est exploité artisanalement. Donc là, je vous ai donné les deux gisements qui sont susceptibles de passer en exploitation industrielle ou semi-industrielle. En dehors de l'or, bien sûr, il y a les ressources historiques, c'est-à-dire les 3T, un peu partout, notamment dans les rivières à gros débit. Parce que moi, je suis un ancien de Soninké, nous avions exploité tout ce qui est gisement de surface, ce qu'on appelle les alluvions sur les collines. Les alluvions, c'est dans les flancs de, on va dire, des rivières. Et les grandes rivières comme l'Oulindi, Elila, le Goulou, l'Oa, qui sont des rivières qui détiennent aussi des ressources puisque ça traverse les zones minières.
Justement, par rapport à ça, la province du Maniema a 7 territoires. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, dans le territoire de Lubutu, Iyasa, Punia?
Oui. Bon, écoutez, en ce qui concerne les 3T, on les retrouve dans tous les territoires sauf dans Kibombo et dans Kasongo. Je vous ai parlé de l'or. L'or, on le rencontre un peu partout, encore une fois sauf dans Kasongo et Kibombo, mais ailleurs on retrouve de l'or. Mais je vous ai donné deux sites où il y a des concentrations qui sont susceptibles de faire l'exploitation industrielle. Nous avons parlé des 3T, mais je voudrais insister sur le coltan. Le coltan, on a toujours dit que le Congo détient 60 à 80% des ressources coltanifères au monde. Eh bien, je voudrais vous dire que si cette affirmation est vraie, c'est à Ona qu'on retrouve ça, c'est-à-dire à Kasese. En fait, le coltan dont on parle tant, les indices les plus importants, le potentiel le plus important, c'est à Ona. Et puis, je voudrais mettre un accent particulier sur les métaux de la transition énergétique, notamment le lithium. Le lithium est porté par un minéral qu'on appelle le spodumène, qu'on peut rencontrer là aussi à Ona, dans une roche qui s'appelle la pegmatite. Donc, le Maniema a du lithium, et notamment entre Lulingu et Ona. Et Ona, il y a un réservoir important de lithium là-bas. Et aussi, et je voudrais terminer par là, la monazite. La monazite, c'est un minerai de terre. Il y en a 17 à l'intérieur. Mais actuellement, les terres rares qui nous intéressent, c'est les néodymes, les praséodymes et les terbiums. Et ces trois terres rares-là servent aujourd'hui dans les applications pour fabriquer des voitures électriques. Et ces trois terres rares entrent dans la fabrication des moteurs.
Alors, M. Léonide, ce minerai présente quelle opportunité dans la province?
L'opportunité, c'est l'avenir. Maintenant, j'ai énuméré toute une série de substances. Le grand problème avec le Maniema, c'est que ces substances ne sont pas suffisamment explorées. Donc, on ne connaît pas le potentiel, on n'a pas quantifié. Donc, il faut maintenant passer à l'exploration pour que tout ça soit bien circonscrit et bien quantifié. En ce moment-là, on pourra voir quelles sont les zones qui se prêtent à l'exploitation industrielle. Maintenant, il faut faire de grandes prospections pour que tous ces minéraux que je viens de citer ici puissent être localisés, quantifiés, comme ça les investisseurs peuvent venir.
Maintenant, vous vous êtes rencontrés dans une conférence sur les mines, l'énergie, les infrastructures. Comment faire face maintenant à ces grands défis de cette province?
Ah, très bien. Moi, j'ai admiré le thème même de la conférence. Mines, énergie et infrastructure. Ça, c'était choisi intelligemment. J'applaudis les organisateurs de cette conférence parce que les mines, c'est un secteur économique qui a besoin de l'énergie et des infrastructures. Les mines consomment beaucoup d'énergie. C'est un intrant essentiel pour le fonctionnement des mines industrielles, tout comme les infrastructures, parce que vous devez faire entrer ce que nous appelons, nous, les intrants. Donc, il faut des infrastructures conséquentes, en l'occurrence, les chemins de fer, et il faut aussi de l'énergie pour faire fonctionner. Donc finalement, tout comme on a besoin d'électricité et d'infrastructures pour pouvoir faire fonctionner les mines, on ne peut pas avoir de l'énergie et des infrastructures là où il n'y a pas un projet économique qui est capable de consommer.
Monsieur Aloni de Hamopepele, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'est par ici que nous bouclons cette édition d'information sur Radio Kapi, mise en onde par Alain Goy. Alain Irong Mouchin, je l'ai préparé pour vous. Je suis Patience Ngalula Mbombo à la présentation. À vous tous, nous disons merci de nous avoir suivis.